Ralph Waldo Emerson, l'éloquence. C'est une théorie des maîtres de musique en vogue, que quiconque peut parler peut chanter. De même, tout homme est probablement éloquent une fois dans sa vie. La capacité de chaleur de nos tempéraments diffère. En d'autres termes, nous entrons en ébullition à différents degrés. Tel individu est amené au point d'ébullition par la chaleur de la conversation du salon. Naturellement, les eaux ne sont pas très profondes. Il a un enthousiasme haut de 2 pouces, une ébullition de bouillotte. Un autre exige la chaleur additionnelle de la foule et d'un débat public. Un troisième a besoin d'un adversaire ou d'une brûlante indignation. À un quatrième, il faut une révélation. Et à un cinquième, rien de moins que la grandeur des idées absolues, les splendeurs et les ombres du ciel et de l'enfer. Mais parce que, si longtemps qu'il ait pu rester muet, tout homme est orateur, une assemblée d'hommes est d'autant plus susceptible de l'être. L'éloquence d'un seul stimule le reste. Quelques-uns, au point de parler eux-mêmes, et tous les autres, à un degré qui en font de bons récepteurs et de bons conducteurs. Et ils se vengent d'eux-mêmes de leur silence forcé par une loquacité croissante quand ils retournent au coin du feu. Les têtes froides sont en de meilleures conditions que celles qui bouent prématurément et rompent impatiemment le silence avant que leur heure soit venue. Nos assemblées régionales donnent souvent le spectacle d'une sorte d'éloquence de bouilloire rapidement échauffée. Cela rappelle trop cette expérience médicale où une série de patients absorbe des gaz d'oxyde nitrique. Chaque patient manifeste à son tour les mêmes symptômes: rougeur du visage, volubilité, gesticulation violente, attitude délirante, parfois des frappements de pieds, une perte inquiétante du sens de la fuite du temps, une jouissance égoïste de ses sensations et un défaut de perception du malaise des spectateurs. Platon dit que la punition des sages qui refusent de prendre part au gouvernement, c'est de vivre sous le gouvernement d'hommes qui ne les valent pas. Et quand on s'abstient de parler, la punition, c'est un regret semblable qui vient à tous les auditeurs. Le regret d'entendre des orateurs pire qu'eux-mêmes. Mais cette passion de parler marque le sentiment universel de la puissance de l'instrument et combien l'homme est curieux d'en toucher les ressorts. De tous les instruments de musique sur lesquels il joue, une assemblée populaire est celui qui a le plus d'étendue et de variété, et dont, grâce au talent et à l'étude, on peut tirer les plus merveilleux effets. Un auditoire n'est pas la simple addition des individus qui le composent. Leur sympathie leur donne un certain sentiment social qui remplit tous les membres, chacun dans sa mesure propre, et particulièrement l'orateur, comme une bouteille de LED est chargée de toute l'électricité de la batterie. Nul ne peut observer les visages d'une assemblée excitée sans s'initier à une nouvelle occasion de peindre en traits de feu la pensée humaine. Et ému, on se sent poussé à émouvoir les autres. Que d'orateurs sont là, muets, assis en bas? Ils viennent pour donner satisfaction à cette perception et intuition qu'aucun Chatham et aucun Démosthène n'ont encore contenté. La triade galloise dit: nombreux sont les amis de la bouche d'or. Qui peut s'étonner de l'attrait que le Parlement, le Congrès ou le barreau exercent sur nos jeunes hommes ambitieux quand les plus hautes séductions de la société sont aux pieds de l'heureux orateur? Il a son auditoire à sa dévotion. Toutes les autres célébrités doivent faire silence devant la sienne. Il est le vrai potentat, car les rois ne sont pas ceux qui sont assis sur les trônes, mais ceux qui savent comment gouverner. Les définitions de l'éloquence exprime son attrait pour le jeune homme. Antiphon, le Ramnusien, un des six orateurs de Plutarque, annonce aux Athéniens qu'il guérira par des paroles les maladies de l'esprit. Il n'est pas d'homme dont la prospérité soit si haute ou si sûre que deux ou trois mots ne puissent le décourager. Il n'est pas de calamité que quelques mots justes ne puissent commencer à soulager. Isocrate définissait son art, le pouvoir de magnifier ce qui était petit et de diminuer ce qui était grand. Définition pénétrante mais incomplète. Chez les Spartiates, l'éloquence prenait une forme spartiate, c'est-à-dire celle de l'arme la plus acérée. Socrate disait: Si quelqu'un désire causer avec le moindre des Lacédémoniens, il trouvera d'abord sa conversation méprisable. Mais qu'une occasion convenable se présente, et ce même homme, comme un jouteur habile, lancera une phrase digne d'attention, courte et ramassée, de sorte que celui qui s'entretient avec lui ne paraîtra à aucun égard supérieur à un enfant. Platon définit la rhétorique, l'art de gouverner l'esprit des hommes. Le Coran dit: Une montagne peut changer de place, mais un homme ne changera pas de disposition. Cependant, le but de l'éloquence, c'est, n'est-il pas vrai, de modifier en une couple d'heures, peut-être en un discours d'une demi-heure, des convictions et des habitudes qui remontent à des années. Les jeunes gens, eux aussi, sont impatients de jouir de ce sentiment de puissance accrue et de vie sympathique plus large. L'orateur se voit l'organe d'une multitude d'individus, concentrant leurs courages et leurs forces. Mais maintenant, le sang de 20 000 personnes animait mon visage. Ce que l'orateur désire, le but que l'éloquence doit atteindre, ce n'est pas le savoir-faire spécial qui consiste à bien dire une histoire, résumer clairement des preuves, discuter logiquement, ou s'adresser habilement aux préjugés de l'assemblée. Non, mais une souveraine prise de possession de l'auditoire. Nous appelons artiste celui qui joue sur une assemblée d'hommes comme un maître sur les touches d'un piano. Celui qui, voyant la foule en fureur, sait l'adoucir et l'apaiser, l'amener à son gré au rire et aux larmes. Mettez-le devant ses auditeurs, et quels qu'ils puissent être, vulgaires ou délicats, contents ou mécontents, sombres ou sauvages, que leurs opinions soient sous la surveillance d'un confesseur ou du côté de leurs épargnes, il saura à son gré les charmer et les satisfaire, et ils accepteront et exécuteront ce qu'il leur aura enjoint. C'est là le pouvoir magique que les poètes ont chanté dans la cornemuse multicolore d'Hamelin, dont la musique attirait comme la force de gravitation, attirait les soldats et les prêtres, les négociants et les convives des festins, les femmes et les enfants, les rats et les souris, ou dans celle du ménestrel de Meudon, qui trouvait moyen de faire danser autour du cercueil les porteurs de cordons du poêle. C'est un pouvoir qui peut avoir bien des degrés, qui exige de l'orateur beaucoup de capacité et d'expérience, qui exige un homme de tempérament riche et large, comme la nature en forme rarement. Aussi, d'après notre expérience, sommes-nous forcés de recomposer le type par fragments, prenant ici un talent, là un autre. L'auditoire est le critérium constant de l'orateur. En toute assemblée publique, il y a plusieurs auditoires dont chacun domine à son tour. Si l'on dit quelque chose de comique ou de grossier, vous voyez les jeunes garçons et les tapageurs surgir si bruyants et si excités que vous pourriez croire que la salle en est remplie. Si on soulève de nouvelles idées, plus hautes et plus sérieuses, les turbulents reculent. Et l'attention devient plus contenue et plus raisonnable. Vous croiriez que les jeunes garçons dorment et que les hommes ont un certain degré de profondeur. Si l'orateur émet un sentiment noble, la tension s'accentue. Un auditoire nouveau et supérieur écoute maintenant. Et les auditeurs de la plaisanterie, des faits positifs, des questions de raisonnement sont réduits au silence et pleins de respect. Il est aussi quelque chose d'excellent en toute assemblée, la puissance de vertu. Les auditeurs sont prêts à être béatifiés. Ils en savent tellement plus que l'orateur et sont si justes. S'éleva-t-il au niveau les plus hauts, une tablette est là pour chaque ligne qu'il pourrait inscrire. D'humbles gens ont conscience d'une lumière nouvelle. Des cerveaux étroits s'élargissent de sympathies plus grandes. Des esprits délicats, longtemps inconnus à eux-mêmes, masqués et étouffés par des circonstances vulgaires, entendent pour la première fois leur langue native et se précipitent pour l'écouter. Mais tous ces auditoires différents, qui surgissent successivement l'un au-dessus de l'autre, pour accueillir la variété des sujets et des tons, sont en réalité composés des mêmes personnes. Il y a plus. Parfois, le même individu entrera tour à tour activement en chacun d'eux. Cette diversité d'influence qu'exerce le parfait orateur et cette diversité d'auditoires qui se trouvent dans une seule assemblée amènent à envisager les degrés successifs de l'éloquence. La qualité qui est peut-être la moindre chez l'orateur, mais qui en bien des cas a une importance capitale, c'est une certaine vigueur, un certain rayonnement de santé corporelle, ou, le dirais-je, une grande puissance de chaleur animale. Quand chacun des auditeurs a le sentiment de constituer à lui seul une trop grande partie de l'assemblée, frissonne de froid devant le clairsemé de la réunion du matin et de frayeur à l'idée d'un mauvais discours qui ferait échouer toute l'affaire, la simple énergie et l'entrain sont d'un prix inestimable. L'habileté et la science seraient moroses et malvenues à côté d'un homme solide, cordial, fait de lait comme nous disons, qui réchauffe la salle de sa loyauté, de ses bonnes intentions manifestes et d'une harangue en style de prêter main forte, faisant déborder sur l'auditoire un flot de vigueur physique et donnant à chacun le sentiment d'être sain et sauf, de sorte que toute espèce de bon discours devient immédiatement possible. Je n'estime pas très haut cette sorte d'éloquence corporelle. Et cependant, il faut, même les meilleurs, que nous nous nourrissions et réchauffions avant de pouvoir bien faire un travail. De même, cette exubérance quasi animale est comme un bon poêle de première nécessité dans une maison froide. Le climat entre ici pour beaucoup. Le climat et la race. Dites à un homme de la Nouvelle-Angleterre de décrire un incident survenu en sa présence. Quelle hésitation et quelle réserve dans son récit. Il raconte quelques détails avec difficulté, arrive aussi vite qu'il le peut à la conclusion et, bien qu'il ne puisse décrire, espère suggérer toute la scène. Écoutez maintenant une pauvre Irlandaise raconter quelqu'une de ses expériences. Sa parole coule comme une rivière, naturelle, pleine d'humour, pathétique, rendant si bien justice à tous les personnages. C'est une véritable transsubstantiation. L'effet converti en discours chaud, coloré, vivant, comme ils sont arrivés. Nos gens du Sud sont presque tous orateurs et ont ici toute supériorité sur les gens de la Nouvelle-Angleterre, dont le climat est si froid qu'on dit que nous n'aimons pas ouvrir la bouche. Mais ni les méridionaux des États-Unis, ni les Irlandais ne peuvent se comparer avec les vifs habitants du sud de l'Europe. Celui qui voyage en Sicile n'a pas besoin de scènes théâtrales plus gaies que celles que lui offre la conversation des joyeux convives de la table d'hôte de son auberge. Il mime la foi et les manières de la personne qu'il décrive, croasse, hurle, siffle, caquette, aboie, crient comme des insensés. Et ne serait-ce que par l'énergie physique qu'ils mettent en œuvre en racontant l'histoire, entretiennent chez les convives une excitation sans borne. Mais chez tout homme, une certaine puissance de vigueur animale est indispensable, à titre de base matérielle des qualités supérieures de l'art de la parole. Mais l'éloquence doit être attirante ou elle n'est rien. Ce qui fait la vertu des livres, c'est d'être lisable, et celle des orateurs d'être intéressant. Et c'est là un don de la nature. Démosthène, en l'espèce le plus laborieux des étudiants, a exprimé son sentiment de cette nécessité en écrivant « Bonne fortune » comme devise sur son écusson. Comme nous le savons, la puissance de la parole peut aller chez certains individus jusqu'à la fascination, bien qu'elle puisse n'avoir aucun effet durable. Un peu de ce miel doit s'y mêler. L'éloquence véritable n'a pas besoin de cloche pour réunir les gens, ni d'officiers de paix pour les surveiller. Elle arrache les enfants à leur jeu, les vieillards à leur fauteuil, le malade à sa chambre bien chaude. Elle se saisit fortement de l'auditeur, lui dérobe ses jambes afin qu'il ne puisse partir, sa mémoire afin qu'il ne puisse se rappeler les affaires les plus pressantes, ses croyances afin qu'il ne puisse admettre aucune considération opposée. Les descriptions que nous en avons aux âges semi-barbares, alors qu'elles tiraient quelque supériorité des habitudes plus simples des gens, montrent le but où elles visent. On dit qu'à Ispahan et dans les autres villes d'Orient, les khans ou conteurs arrivent à dominer leurs auditeurs, les tenant pendant des heures attentifs aux histoires les plus fantaisistes et les plus extravagantes. Le monde entier connaît assez bien la manière de ces improvisateurs et comme ils sont fascinants dans nos traductions des nuits arabes. Scheherazade raconte ces histoires pour sauver sa vie. Et le charme qui trouve la jeune Europe et la jeune Amérique prouve qu'elle l'a bien gagné. Et qui ne se rappelle dans son enfance quelques Scheherazades blanches, noires ou jaunes, que ce talent de conter les exploits sans fin des magiciens et des fées, des rois et des reines, rendait plus cher et plus admirable à un auditoire d'enfants qu'aucun orateur d'Angleterre ou d'Amérique ne l'est aujourd'hui. La constitution plus nonchalante et plus imaginative des peuples orientaux les rend beaucoup plus sensibles à ces appels à la fantaisie. Ces légendes ne sont que l'exagération de faits réels, et toutes les littératures contiennent ces hauts éloges de l'art de l'orateur et du barde, depuis les Hébreux et les Grecs jusqu'à l'Écossais Glenkindi, qui pouvait pêcher dans la cascade, faire jaillir l'eau de la pierre ou du lait du sein de la femme qui jamais n'avait enfanté. Homère s'est particulièrement délecté à peindre ce même portrait. Qu'est-ce que l'Odyssée, sinon l'histoire de l'orateur écrite en grand, poursuivie à travers une série d'aventures qui lui fournissent de brillantes occasions de manifester son talent? Voyez avec quelle sollicitude et quel plaisir le poète l'introduit en scène. Du haut d'une tour, Hélène désigne à Priam les principaux chefs grecs. Le vieillard demanda: Dites-moi, chère fille, quel est cet homme, plus petit qu'Agamemnon de la hauteur d'une tête, et qui cependant a l'air plus large d'épaules et de poitrine? Ses armes gisent sur le sol, mais il parcourt les rangs des soldats comme un chef. Il me semble un bélier imposant qui marche comme le maître du troupeau. Hélène, fille de Jupiter, lui répondit: C'est le sage Ulysse, fils de Laërte, qui a été élevé dans l'île escarpée d'Ithaque, qui connaît toutes sortes de stratagèmes et des plus artificieux. Le prudent Anténor lui répondit: Ô femme, tu as dit vrai, car jadis, le sage Ulysse vint ici en ambassade avec Ménélas, bien-aimé de Mars. Je les reçus et leur donnai l'hospitalité dans ma maison. J'appris à connaître le génie et la grandeur de discernement de tous deux. Quand ils se mêlèrent aux troupes assemblées et se tinrent debout, Les larges épaules de Ménélas dépassaient l'autre, mais quand ils s'assirent, le plus majestueux était Ulysse. Lorsqu'ils causèrent, échangeant des récits, des appréciations avec tous, Ménélas parla succinctement, ne disant que peu de mots, mais très agréable, car il n'était ni causeur, ni prolixe en ses discours, et était le plus jeune. Pour le sage Ulysse, quand il se leva, se tint debout les yeux baissés, fixant son regard sur le sol, sans remuer son sceptre en avant ou en arrière, le tenant immobile comme une personne embarrassée, vous auriez dit un homme en colère ou insensé. Mais quand il fit jaillir de sa poitrine sa voix puissante et que ses paroles tombèrent comme les neiges d'hiver, aucun mortel n'aurait voulu contester avec lui. Et voyant ce spectacle, nous ne nous étonnâmes plus autant de son aspect. Ainsi, il ne manque pas d'armer Ulysse dès le début de ce pouvoir de surmonter toutes les oppositions par les séductions de la parole. Plutarque raconte que lorsque Archidamus, roi de Sparte, demanda à Thucydide quel il était, de Périclès ou de lui, le meilleur athlète répondit: quand je le renverse, il dit n'avoir pas été terrassé et amène les spectateurs eux-mêmes à le croire. Philippe de Macédoine disait de Démosthène, en entendant le compte-rendu de l'un de ses discours, si j'avais été là, il m'aurait persuadé de prendre les armes contre moi-même. Et Warren Hastings disait au discours de Burke sur sa mise en accusation, en écoutant l'orateur, il m'a semblé pendant plus d'une demi-heure que j'étais l'être le plus coupable de la terre. Dans ces exemples, il entre déjà des qualités supérieures. Mais le don de retenir l'attention par un discours agréable et de parler à l'imagination et à la fantaisie existe souvent sans mérite supérieur. Ainsi isolé, comme cette fascination du discours ne vise qu'à l'amusement, alors même qu'elle aurait momentanément un effet décisif, elle n'est qu'une jonglerie et sans pouvoir durable. On l'écoute comme une troupe de musiciens qui parcourt les rues et convertit tous les passants en poètes, mais qui est oubliée dès qu'elle a tourné le premier coin. Et à moins, pour parler en style oriental, que cette langue emmiellée ne puisse laper le soleil et la lune, cette sorte d'éloquence doit se mettre au rang de l'opium et de l'eau-de-vie. Je ne sais point de remède contre elle, si ce n'est le coton ou la cire dont Ulysse boucha les oreilles de ses marins pour passer sans danger au milieu des sirènes. Il est 1000 degrés de puissance, et les moindres ont leur intérêt. Mais il ne faut pas les confondre. Il y a l'abondance facile de l'homme de loi qui produit assez d'effet sur les gens dénués de ce genre de talent, quoique, en bien des cas, elle ne soit rien de plus que le don d'exprimer avec rapidité et exactitude ce que chacun pense et formule plus lentement, sans plus de connaissances ni de précision de pensée, mais la même chose, ni plus ni moins. Il n'est besoin d'aucune pénétration spéciale pour éditer un des journaux de notre pays. Cependant, quiconque peut débiter couramment, en une série de phrases, des choses ni meilleures ni pires que celles qui y sont imprimées, fera beaucoup d'impression sur notre peuple aisément satisfait. Ces parleurs sont de la classe qui réussit, comme le fameux maître d'école, en étant en avance sur l'élève que d'une seule leçon. Ajoutez-y un peu d'esprit sarcastique, de promptes allusions aux incidents du jour, et vous aurez le membre néfaste du Parlement. Un grain de méchanceté, une touche brutale dans sa rhétorique ne lui feront aucun tort vis-à-vis de son auditoire. Ses talents sont de la même espèce et seulement d'un degré plus élevé que les boniments du commissaire-priseur et le langage injurieux bien caractérisé par l'expression populaire coup de gueule. Ces sortes de discours publics et privés ont leur intérêt et leur avantage pour les professionnels, mais on peut dire de tels gens que l'habitude de la parole est propre à les disqualifier pour l'éloquence. Un de nos hommes d'État disait: la malédiction de ce pays, ce sont les hommes éloquents. Et l'on ne peut s'étonner du malaise que montrent parfois des hommes d'État exercés, ayant une grande expérience des affaires publiques, quand ils constatent la façon disproportionnée dont l'éloquence l'emporte soudain sur les services publics les plus nombreux et les plus réels. Au Sénat ou en d'autres assemblées d'affaires, les résultats solides dépendent d'un petit groupe de travailleurs. Ils savent comment agir en face des faits, comment présenter les choses sous une forme pratique, et n'estiment les hommes que dans la mesure où ils peuvent faire avancer la tâche. Mais voici un nouveau venu, incapable de les aider, insignifiant, n'étant rien dans le comité, mais ayant le don de la parole. Dans les débats portes ouvertes, ce précieux personnage prononce un discours que l'on imprime et que toute l'Union lit. Il devient immédiatement célèbre et l'emporte dans l'esprit public sur les hommes d'action, lesquels sont naturellement indignés de voir un être qui n'a ni tact ni capacité. Dans les débats portes ouvertes, ce précieux personnage prononce un discours que l'on imprime et que toute l'Union lit. Il devient immédiatement célèbre et l'emporte dans l'esprit public sur les hommes d'action, lesquels sont naturellement indignés de voir un être qui n'a ni tact ni capacité, et saine en point d'avoir, mis au-dessus de tous grâce à cette facilité de parole qu'il dédaigne. Laissant derrière nous ces prétentions plus ou moins justes, pour nous rapprocher un peu plus de la vérité, l'éloquence attire en tant qu'exemple de la fascination qu'exerce l'ascendant personnel. C'est une résultante, une puissance totale, rare parce qu'elle exige un riche concours de forces. Intelligence, volonté, sympathie, constitution physique et par-dessus tout, le hasard d'une bonne cause. Nous croyons à demi à la possibilité d'un être capable de contrebalancer tous les autres. Nous croyons qu'il peut y avoir un homme à la hauteur des événements, un homme qui n'a jamais trouvé son égal, un homme contre qui les autres, élancés, se brisent, un homme de ressources personnelles inépuisables, qui peut vous céder autant de points que vous voudrez et remporter la victoire sur vous. Ce que nous désirons réellement, c'est un esprit à la hauteur de n'importe quelle circonstance. Vous êtes en sécurité dans votre district rural ou dans la ville, en plein jour, au milieu de la police et sous le regard de 100 000 personnes. Mais qu'en serait-il sur l'Atlantique, au milieu d'une tempête? Sauriez-vous comment faire pénétrer votre raison en des hommes désemparés par la terreur et échapper sains et saufs? Comment le faire parmi des voleurs, une populace furieuse ou des cannibales? Face à face avec un malfaiteur de grand chemin, qui a toutes les tentations et opportunités en matière de violence et de vol, pourriez-vous vous sauver par votre esprit manifesté en vos discours? Problème assez facile pour un César ou un Napoléon. Chaque fois qu'arrive un homme de cette trempe, le voleur de grand chemin a trouvé son maître. Quelle différence entre les hommes dans la puissance d'expression de la physionomie! Un homme réussit parce qu'il a dans les yeux plus d'autorité qu'un autre, et par là le séduit ou l'intimide. Toutes les semaines, les journaux racontent l'histoire de quelque impudent chevalier d'industrie qui, par ses airs d'assurance, a dupé ceux qui auraient dû s'y connaître davantage. Cependant, tous les escrocs que nous avons connus étaient des novices et des maladroits, comme le prouve leur mauvais renom. Une expression de physionomie plus puissante réussirait en quelque chose que ce fût et ferait disparaître le mauvais renom avec le reste de leur prise. Une plus grande aptitude à conduire l'affaire de haut, avec une assurance parfaite, confondrait marchands, banquiers, juges, hommes d'influence et d'autorité, poètes et présidents, pourraient se mettre à la tête de n'importe quel parti, renverser n'importe quel souverain et abroger n'importe quelle constitution d'Europe ou d'Amérique. On a dit que celui-là atteint du premier coup a une force immense, qui a renoncé au sentiment moral et décidé avec lui-même de ne s'attacher désormais à rien. On a dit de Sir William Pepperell, un des hommes illustres de la Nouvelle-Angleterre, que, où que vous le mettiez, il commandait et voyait sa volonté s'accomplir. Jules César dit à Metellus, quand ce tribun intervint pour l'empêcher de pénétrer dans le trésor de Rome, « Jeune homme, il m'est plus facile de vous mettre à mort que de dire que je le veux. » Et le jeune homme céda. Il avait été pris auparavant par des pirates. Que fit-il? Il se jeta lui-même dans leur vaisseau, s'établit avec eux dans la plus extraordinaire intimité, leur conta des histoires, déclama. S'ils n'applaudissaient pas ses discours, il les menaçait de les faire pendre, ce qu'il fit plus tard. Et en peu de temps, il devint maître de tous ceux qui étaient à bord. C'est là un homme qui ne se laisse pas déconcerter, et par là même n'a jamais à jouer sa dernière carte, mais a une réserve de force quand il atteint son but. Avec une physionomie sereine, il bouleverse un royaume. Ce qu'on raconte de lui est miraculeux, paraît-elle. Les hommes lui prodiguent leur confiance. Il change la face du monde et des histoires, des poèmes, de nouveaux systèmes philosophiques surgissent pour l'expliquer. C'est un être qui commande souverainement à toutes ses passions et à tous ses sentiments. Mais le secret de son autorité est plus haut. C'est la puissance de la nature se répandant sans obstacle du cerveau et du vouloir dans les mains. Les hommes et les femmes sont ses jouets. Où ils sont, il ne peut être sans ressources. Quiconque peut bien parler, disait Luther, est un homme. C'était des hommes de cette trempe que les États grecs avaient coutume de demander à Sparte comme généraux. Ils n'envoyaient pas demander de troupes à Lacédémone, mais disaient « Envoyez-nous un chef ». Et les efforts dépêchaient Pausanias, Gylippe, Brasidas ou Agis. Il est facile de montrer cette personnalité dominatrice par ces exemples de soldats et de rois. Mais il est des hommes du genre de vie le plus tranquille et de principes pacifiques qui, partout où ils vont, se sentent aussi manifestement que le soleil de juillet ou la gelée de décembre. Des hommes que l'on entend lorsqu'ils parlent, bien qu'ils ne parlent qu'en un murmure. Des hommes qui, lorsqu'ils agissent, agissent avec efficacité, et ce qu'ils font, on limite. Et l'on peut en trouver des exemples en des sphères très humbles, aussi bien que dans des sphères élevées. Dans les pays depuis longtemps civilisés, on met un haut prix au service des hommes qui sont arrivés à une supériorité personnelle. Celui qui veut faire aboutir quelque chose doit payer non un procureur habile, mais un maître. Il est en Angleterre un avocat qui passe pour avoir gagné 30 ou 40 000 livres sterling per annum en soutenant les droits des compagnies de chemin de fer devant les commissions de la Chambre des communes. Ses clients ne paient pas tant pour ses connaissances légales que pour ses qualités viriles, son courage, sa conduite et une position sociale prépondérante, qui lui permettent de faire écouter leurs réclamations et d'en faire tenir compte. Je sais très bien que chez notre peuple froid et calculateur, où chacun monte la garde autour de soi-même, où s'échauffer, s'effrayer et s'abandonner sont choses tout à fait inadmissibles, il règne un grand scepticisme à l'endroit de cette influence extraordinaire. Parler d'un esprit dominateur éveille le même sentiment de jalousie et de défiance que l'on peut observer autour d'une table où quelqu'un raconte de merveilleuses histoires de magnétisme. Chaque auditeur met un point final au récit en s'écriant « Pourrait-il me magnétiser ? Ainsi, chacun cherche à savoir si quelque orateur pourrait modifier ses convictions. Mais est-il quelqu'un qui se suppose absolument réfractaire? Croit-il qu'il n'y a aucune possibilité pour lui de rencontrer un individu qui lui fasse abandonner ses résolutions les plus fermes, qui, par exemple, fasse un fanatique du bon et tranquille citoyen qu'il est, ou, s'il est parcimonieux, qui lui fasse gaspiller son argent pour quelques projets auxquels il pense le moins, ou, s'il est un homme prudent, laborieux, qui lui fasse négliger son travail et prendre intérêt à une nouvelle question durant des jours et des semaines. Non, il les en défie tous, il en défie chacun. Ah, il songe à la résistance et à un tour de pensée différent du sien. Mais que faire s'il vient un homme de même tour d'esprit et qui voit beaucoup plus loin que lui sur sa propre route? Un homme dont les goûts sont pareils aux miens, mais d'une force plus grande, me dirigera à n'importe quel moment et me fera aimer mon conducteur. Ainsi, ce n'est pas le talent de la parole que nous avons d'abord en vue sous ce mot éloquence, mais la force qui, présente, lui donne sa perfection et absente, ne lui laisse qu'une valeur superficielle. L'éloquence est l'instrument propre de la plus haute énergie personnelle. L'ascendant personnel peut exister avec un talent adéquat d'expression ou sans lui. On le perçoit aussi sûrement qu'une montagne ou une planète. Mais quand il est armé du pouvoir de la parole, il semble pour la première fois devenir vraiment humain, s'exerce activement dans toutes les directions et fournit à l'imagination de précieux matériaux. C'est là un fait qui rentre en chaque analyse du pouvoir des orateurs et est la clé de tous les résultats qu'ils obtiennent. Dans une assemblée, vous verrez que l'orateur et l'auditoire sont en équilibre perpétuel et le choix du sujet indique la prédominance de l'un ou de l'autre. Là où existe le don de la parole, mais non une personnalité forte, vous avez de bons orateurs qui reçoivent et expriment parfaitement la volonté de l'auditoire. Et la populace la plus basse se trouve flattée d'entendre ces pensées vulgaires qui lui sont renvoyées avec tous les ornements que peut y ajouter un talent habile. Mais si l'orateur a de la personnalité, l'aspect des choses se modifie. L'auditoire est mis dans la position d'un élève, suit l'orateur comme un enfant suit son maître et écoute ce qu'il a à dire. C'est comme si, au milieu du conseil du roi à Madrid, alors que Ximénez prouve qu'on pourrait gagner quelque avantage sur la France et Mendoza qu'on pourrait contenir les Flandres, Colomb étant introduit, on lui demandait si ses connaissances géographiques pourraient aider le cabinet. Il ne pourrait rien dire à l'un ou à l'autre parti. Mais il pourrait montrer comment on peut diminuer toute l'Europe et la ranger sous le roi en assurant à l'Espagne un continent grand comme 6 ou 7 Europes. Cet équilibre entre l'orateur et l'auditoire se manifeste dans ce qu'on appelle la pertinence de l'orateur. Il y a toujours antagonisme entre l'orateur et les circonstances, entre les exigences du moment et les préoccupations de l'individu. L'événement qui a provoqué la réunion a généralement plus d'importance que tout ce que les discutants ont dans l'esprit. Aussi s'impose-t-il à leurs pensées. Mais si l'un d'entre eux a au cœur quoi que ce soit qui ait le caractère d'une nécessité impérieuse, comme il trouve rapidement le moyen de s'en ouvrir, et cela aux applaudissements du public. Cet équilibre s'observe dans la conversation privée. Le pauvre Tom n'a jamais connu l'heure où la circonstance présente était si insignifiante qu'il lui était possible de dire ce qui lui venait à l'esprit, sans qu'on l'arrêtât en lui reprochant un discours hors de saison. Mais que Bacon parle, et les sages préfèrent écouter, alors même que la révolution des empires serait en marche. J'ai entendu raconter d'un prédicateur éloquent, dont la voix n'est pas encore oubliée dans cette ville, que quand une mort ou un désastre tragique étendait son voile noir sur la congrégation, il montait les degrés de la chaire avec plus de légèreté que de coutume, et, invoquant ses textes favoris de reconnaissance pieuse et exultante, louant le Seigneur, il entraînait ses auditeurs, les affligés et l'affliction avec lui, et chassait toute l'impertinence des chagrins personnels devant ses hosannas et cantiques de louange. En revenant d'une conférence, Pepi dit de Lord Clarendon, dont il est follement épris, je n'avais jamais remarqué combien on parle plus facilement quand on sait que toute l'assemblée est au-dessous de soi, comme je viens de le faire en l'écoutant. Car, quoiqu'il parlât en vérité parfaitement bien, la manière, l'aisance avec laquelle il le faisait, comme en se jouant et informant seulement tout le reste de l'auditoire, était puissamment élégante. Cet antagonisme entre l'orateur et l'événement est inévitable, et l'événement cède toujours à l'éminence de l'orateur, car un grand homme est le plus grand des événements. Naturellement, l'intérêt des auditeurs et celui de l'orateur vont de pair. Tout n'est bien pour eux que quand son influence est complète. Alors seulement ils sont satisfaits. Il consulte particulièrement ses forces en choisissant son thème au lieu de l'accepter. S'il essayait d'instruire les gens de ce qu'ils connaissent déjà, il échouerait. Mais en les informant de ce qu'il sait, il a à tout moment l'avantage sur l'auditoire. La tactique de Napoléon, avançant contre l'angle d'une armée et présentant toujours des forces supérieures en nombre, est aussi le secret de l'orateur. Les différentes ressources qu'emploie l'orateur, les armes splendides qui servent à l'équipement de Démosthène, d'Eschyle, de Démade, l'orateur né, de Fox, de Pitt, de Patrick Henry, d'Adams, de Mirabeau, méritent une énumération spéciale. Nous ne devons pas omettre entièrement la désignation des pièces principales. L'orateur, comme nous l'avons vu, doit avoir une personnalité réelle. Ensuite, il doit avoir tout d'abord le don de l'exposition. Il doit posséder le fait et savoir le présenter. Dans tout groupe d'individus causant sur un sujet quelconque, l'homme qui est le plus informé gagnera l'attention de l'auditoire, s'il le désire, et dirigera la conversation, quel que soit le génie ou la distinction que puissent avoir les autres personnes présentes. Et dans toute réunion publique, les gens écouteront celui qui possède les faits, qui peut et veut les exposer, alors même qu'il serait par ailleurs un ignorant, alors même qu'il aurait la voix rauque et serait disgracieux, qu'il bégayerait et crierait. Au tribunal, l'auditoire est impartial. Il désire réellement approfondir les assertions et savoir où est la vérité. Et dans l'interrogatoire des témoins, il surgit d'ordinaire et d'une façon tout à fait inattendue, trois ou quatre paroles ou phrases qui reviennent constamment, sont la moelle et le point décisif de l'affaire, entrent dans la tête de chacun, y demeurent et tranchent la cause. Tout le reste n'est que répétition et mitigation, et la cour et le comté se sont en réalité réunis pour arriver à ces trois ou quatre paroles mémorables qui révèlent le sentiment et la pensée de quelqu'un. En toute société, l'individu qui connaît les faits est comme le guide qu'un groupe d'amis et vous engagez pour faire l'ascension d'une montagne ou vous conduire à travers un pays difficile. Il se peut qu'au point de vue de l'esprit, de l'éducation, du courage ou des biens, il ne puisse soutenir la comparaison avec aucun des membres de votre groupe. Mais dans les circonstances présentes, il est beaucoup plus important qu'aucun d'eux. C'est là ce que nous avons en vue quand nous allons au tribunal. Nous voulons voir le fait général dégagé, la relation exacte de toutes les parties, et c'est la certitude avec laquelle, en une affaire quelconque bien conduite, la vérité, une réalité de la vie humaine bien connue, nous regarde en face à travers tous les déguisements qu'on lui a mis, qui fait l'intérêt des tribunaux pour le spectateur intelligent. Je me rappelle avoir été, il y a longtemps, attiré au tribunal par la supériorité des défenseurs et l'importance locale de la cause. Le prisonnier avait pour défenseurs les hommes de loi les plus forts et les plus habiles de la République. Ils poussèrent le procureur de l'État dans ses derniers retranchements, lui détruisant ses raisons et le réduisant à se taire, mais non à céder. Serré de trop près, il se vengea à son tour sur le juge, en demandant au tribunal d'expliquer ce que c'était qu'un sauvetage. Le tribunal ainsi acculé essaya de se tirer d'embarras par des mots et dit tout ce qui lui passait par l'esprit pour remplir le temps, imaginant des exemples, expliquant les devoirs des assureurs, des capitaines, des pilotes, des divers officiers de marine qui existent ou pourraient exister. Comme un écolier embarrassé par une règle difficile, lit le contexte avec insistance. Mais tout ce flot de paroles ne servant pas à la sèche, ce terrible requin de procureur de district étant toujours là, attendant sévèrement avec son « il faut que le tribunal donne une définition », le pauvre tribunal allégua son incompétence. Dans le cas présent, c'était au tribunal supérieur à fixer la jurisprudence, et il lut piteusement tout haut les décisions de la Cour suprême, mais les lut à des gens sans pitié. À la fin, le juge fut forcé de formuler quelque chose, et les avocats sauvèrent leur filou grâce au brouillard de la définition. Les parties étaient si bien distribuées et différenciées que le jeu était intéressant à suivre. Le gouvernement était assez bien représenté. Il se montra absurde, mais il avait une volonté, la situation la plus forte, et s'y tint jusqu'au bout. Le rôle du juge dépassait sa préparation. Cependant, sa position restait solide. Il était là pour représenter une grande réalité, la justice des États qu'il pouvait aisément voir planer au-dessus de sa tête, et que ses propos inutiles n'atteignaient nullement et ne pouvaient retarder, puisqu'il n'avait que des intentions droites. L'exposé du fait s'efface cependant devant l'exposé de la loi, lequel exige des talents infiniment supérieurs et est un don des plus rares, une seule et même chose chez tous les grands maîtres. Rien de technique chez les hommes de loi, mais toujours quelque élément de sens commun, intéressant également les profanes et les professionnels. Le mérite de Lord Mansfield est celui du sens commun. C'est la même qualité que nous admirons chez Aristote, Montaigne, Cervantes, Samuel Johnson ou Franklin. Son application aux matières de droit semble tout à fait accidentelle. Chacun des jugements célèbres de Mansfield renferme une ou deux phrases qui atteignent le but. Les phrases ne sont pas toujours achevées pour le regard, mais elles le sont pour l'esprit. Il enchevêtre ses phrases, mais il énonce une proposition solide. Il trace une juste démarcation. Elles procèdent d'un sain entendement et atteignent l'entendement sain. Et j'ai lu avec surprise qu'aujourd'hui, les avocats de cabinet souriaient de ces jugements équitables comme s'ils n'étaient pas aussi de doctes jugements. C'est là réellement la raison d'être du discours, exposer des choses. Et tout ce que l'on appelle éloquence me semble dans la plupart des cas peu utile à ceux qui l'ont, mais inestimable pour ceux qui ont quelque chose à dire. À côté de la connaissance du fait et de sa loi, vient immédiatement la méthode qui constitue le génie et l'efficacité de tous les hommes remarquables. Une foule de gens monte à Faneuil Hall. Tous connaissent assez bien le but de la réunion. Ils ont tous lu les faits dans les mêmes journaux. L'orateur ne possède aucune information que ses auditeurs n'aient aussi. Cependant, il leur apprend à voir la chose par ses propres yeux. Grâce à un nouvel arrangement, les circonstances acquièrent plus de force et de prix. Par le fait qu'il le cite, chaque détail gagne en importance et les riens prennent de la valeur. Ses paroles les fixent dans la mémoire des hommes et volent de bouche en bouche. Son esprit a un nouveau principe de classement. Là où se portent ses regards, les choses se précipitent à leur place. Que va-t-il dire ensuite? Qu'il parle et que lui seul parle. En appliquant aux affaires ordinaires de ce monde les habitudes d'une forme de pensée plus haute, il introduit partout où il va la beauté et la grandeur. Tel était le don de Burke, et nous avons eu quelques brillants exemples de ce génie dans notre propre monde d'hommes de loi et d'hommes politiques. Les images. Dans une certaine mesure, l'orateur doit être un poète. Nous sommes des êtres si imaginatifs que sur l'esprit humain barbare ou civilisé, rien n'agit comme une figure. Concentrer une expérience journalière en un symbole éclatant, et les auditeurs sont électrisés. Il leur semble posséder déjà quelques nouveaux droits, quelques nouveaux pouvoirs sur un fait qu'ils peuvent isoler et dominer ainsi complètement en pensée. C'est un merveilleux auxiliaire de la mémoire, laquelle emporte l'image et ne la perd jamais. Une assemblée publique, comme la Chambre des communes ou le Parlement français ou le Congrès américain, est gouvernée par ces deux puissances. Le fait d'abord, ensuite le talent d'exposition. Mettez votre thèse sous une forme concrète ou une image. Une phrase résistante, ronde et solide comme une balle qu'on pourra voir, manier et emporter chez soi. Et la cause sera à demi gagnée. L'exposition, la méthode, les images, le choix, la fidélité de la mémoire, le don de manier les faits, de les éclairer, de les affaiblir par le ridicule ou par une diversion de l'esprit, la généralisation rapide, l'humour, le pathétique, sont des clés que tient l'orateur. Et cependant, ces dons excellents ne sont pas l'éloquence et empêchent souvent d'y atteindre. Et si nous arrivons au cœur du mystère, peut-être devrons-nous dire que l'homme vraiment éloquent est un homme saint, doué du pouvoir de communiquer sa santé d'esprit. Munissez-le des armes merveilleuses de cet art. Donnez-lui le pouvoir de saisir les faits. La science, une imagination vive, l'ironie, les allusions brillantes, les images sans fin, tous ces dons si puissants et si captivants ont le pouvoir de tromper et de fourvoyer également l'auditoire et l'orateur. Ces dons sont trop forts pour lui. Ses chevaux s'emportent avec lui et les gens voient toujours si vous conduisez ou si les chevaux prennent le mordant et s'emportent. Mais ces dons deviennent quelque chose de tout autre quand ils sont subordonnés à l'orateur et le servent. Et nous allons à Washington ou à Westminster Hall et pourrons bien faire le tour du monde pour voir un homme qui conduit son talent et n'est pas emporté par lui. Un homme qui, en poursuivant de grands desseins, a un pouvoir absolu sur les moyens de représenter son idée et n'use de ses moyens que pour l'exprimer, situant les faits, situant les gens et, au milieu de l'inconcevable légèreté des êtres humains, ne déviant jamais un instant de la rectitude. Il existe pour chaque individu une formule acceptable de la vérité qu'il est le moins disposé à admettre. Une formule si large et si pénétrante qu'il ne peut y échapper et doit ou plier devant elle ou en mourir. Autrement, le mot éloquence n'existerait pas, car c'est cela qu'il désigne. L'auditeur ne peut se dissimuler qu'on a montré à lui-même et à l'univers une chose qu'il ne désirait pas voir, et, comme il ne peut disposer d'elle, c'est elle qui dispose de lui. L'histoire des affaires ou des hommes publics en Amérique fournit aisément de tragiques exemples de cette force fatale. Pour les triomphes de l'éloquence, il faut encore quelque chose de plus, que l'homme soit renforcé par les événements, de manière à avoir la double puissance de la raison et du destin. Dans l'éloquence supérieure, il y a toujours eu une crise des choses, crise telle qu'elle engage profondément l'orateur dans la cause qu'il plaide et concentre tout cet immense pouvoir sur un seul point. Pour qu'il y ait explosion et éruption, il faut qu'il y ait quelque part une accumulation de chaleur, qu'il y ait au centre des couches d'anthracite en feu. Et, dans les cas où une conviction profonde s'est formée, l'homme éloquent n'est pas celui qui est un discoureur de talent, mais celui qui s'est intimement enivré d'une certaine croyance. Elle l'agite, le travaille, et va peut-être jusqu'à le priver de ses facultés d'articulation. Alors, elle jaillit de lui en cris brefs, saccadés, en torrents d'idées. Le sujet possède tellement son esprit qu'il lui donne une méthode d'expression qui est la méthode même de la nature, et par conséquent la méthode la plus puissante, et qu'aucun art ne peut imiter. Et la différence capitale entre lui et les acteurs qui ont toutes les grâces, c'est la conviction, communiquée par chacun de ces mots, que son esprit contemple un tout, est enflammé de la vision du tout, et que les paroles et les phrases qu'il profère, si admirables soient-elles, tombent de lui comme des fragments négligés de ce tout formidable qu'il voit et veut que vous voyez aussi. Ajoutez à cela un certain calme supérieur qui, dans tout le tumulte, ne profère jamais une syllabe prématurée, mais garde le secret de ses moyens et de sa méthode. Et l'orateur se tiendra devant les gens comme une puissance surnaturelle dont les miracles leur restent insaisissables. Cette ardeur terrible justifie la vieille superstition des chasseurs, à savoir que la balle qui atteint le but est celle qui a été d'abord trempée dans le sang du tireur. L'éloquence doit se fonder sur l'exposé le plus simple. Plus tard, elle peut s'échauffer jusqu'à rayonner en images de toute espèce et de toute couleur, ne s'exprimer que sous les formes les plus poétiques. Mais avant tout, elle doit toujours être, au fond, un exposé religieux de la réalité. C'est par le fait de s'appuyer toujours sur le réel que l'orateur est un orateur. Par-delà seulement, il est invincible. Il n'est pas de talent, de charme, de puissance d'esprit, de savoir ou d'image qui puisse compenser le manque de réalité. Tous les auditoires y sont sensibles. Une parole ou une éloquence réputée pousseront un petit nombre de fois les gens à entendre un orateur, mais bientôt ils commenceront à se demander où veut-il en venir? Et si l'homme ne représente rien, on le désertera. Ils suivront longtemps l'homme qui soutient fermement quelqu'une de leurs croyances, qui exprime des choses positives. Mais une lacune dans le caractère de l'orateur entraîne avec raison une perte d'influence. Le prédicateur énumère ces catégories d'individus, et je n'y trouve point ma place. Je soupçonne alors que personne n'y trouve la sienne. Tout est de ma famille, et quand il parle de choses réelles, je sens qu'il touche à quelqu'une de mes relations et suis mal à l'aise. Mais quand il s'en tient aux mots, nous sommes dispensés d'attention. Si vous voulez m'élever, vous devez être à un niveau supérieur. Si vous voulez m'affranchir, vous devez être libre. Si vous voulez rectifier ma perception erronée des faits, présentez-moi ces mêmes faits dans l'ordre véritable de la pensée, et je ne pourrai me détourner de la nouvelle conviction. La puissance de Chatham, de Périclès, de Luther s'appuyait sur cette énergie du caractère. Énergie qui, ne craignant et ne pouvant craindre quoi que ce soit, ne tenait pas compte des adversaires, devenait parfois délicieusement provocante et parfois leur était terrible. Nous ne possédons que peu de traits de ces hommes et les livres pesants qui rapportent leurs discours ne peuvent nous renseigner. Quelques-uns furent des écrivains comme Burke, mais la plupart ne l'étaient pas. Et il ne reste d'eux aucun témoignage à la hauteur de leur réputation. D'ailleurs, le meilleur est perdu, l'intensité de vie du moment. Mais les conditions de l'éloquence existent toujours. Elle disparaît toujours des lieux célèbres et apparaît dans les endroits obscurs. Partout où les électricités contraires se rencontrent, partout où le sentiment moral dans sa fraîcheur, l'instinct de la liberté et du devoir se trouvent en opposition directe avec l'esprit conservateur fossile et la soif du gain, l'étincelle jaillit. Dans ce pays, la lutte contre l'esclavage a été une fertile pépinière d'orateurs. La liaison naturelle en vertu de laquelle elle a attiré à soi tout un cortège de réformes morales et la faible mais suffisante organisation de partis qu'elle a présentée ont fortifié les villes du sang nouveau, des bois et des montagnes. Des hommes du désert, des Jean-Baptiste, des Pierre l'Ermite, des John Knox annoncent au cœur des capitales commerçantes les sentiments primitifs de la nature. Ils nous envoient tous les ans quelques échantillons de forces indigènes, quelques hommes de chaîne résistants, que la populace ne peut réduire au silence, ni insulter, ni intimider, parce qu'il est encore plus peuple qu'elle. Un homme qui malmène la populace, quelques campagnards vigoureux, sur qui ni l'argent, ni la politesse, ni les mots durs, ni les œufs pourris, ni les coups, ni les pierres ne produisent de l'effet. Il peut se rencontrer avec les beaux esprits et les fiers à bras de cabaret. Il est lui-même un bel esprit et un fier à bras, et quelque chose de plus. C'est un gradué de la charrue, de la houe et de la serpe. Il connaît tous les secrets des marais et des bancs de neige, et le labeur, la pauvreté, le pénible travail de la ferme n'ont rien à lui apprendre. Son rude cerveau a passé durant l'enfance par la discipline du calvinisme, avec textes et mortifications à l'appui. De sorte que dans une réunion d'auditeurs de la Nouvelle-Angleterre, il représente un spécimen de la Nouvelle-Angleterre plus pur qu'aucun d'eux, et lance ses sarcasmes de droite et de gauche. Il n'a pas seulement les documents en poche pour répondre à toute contestation et prouver toutes ses assertions, mais il a en son esprit la raison éternelle. Un tel homme renonce dédaigneusement à vos institutions sociales, comté, ville, gouvernement ou armée. Il est sa propre maison et son artillerie, son juge et son jury, son pouvoir législatif et exécutif. Il a appris sa leçon à une rude école. Toutefois, s'il élève à l'étoffe voulue la meilleure université que l'on puisse recommander à un homme, c'est la lutte avec les foules. Celui qui veut parvenir à la maîtrise dans cette science de la persuasion doit placer l'essentiel de l'éducation non dans les disciplines courantes, mais dans le caractère et la pénétration. Qu'il veille à ce que son discours ne se différencie pas de l'action. Qu'il comprenne que quand il a parlé, il n'a rien fait, ni fait aucun mal, mais s'est ceint les reins, s'est engagé à l'effort salutaire. Qu'il envisage l'opposition comme une opportunité. On ne peut le vaincre ni le supprimer. Il y a en lui un principe de résurrection, l'immortalité de l'idée. Les hommes se montrent défavorables et hostiles pour donner de la valeur à leur suffrage. Si les gens ne sont pas convaincus, la faute n'en est pas à eux, mais à lui qui ne sait pas les convaincre. Muni comme il l'est de la raison et de l'amour qui sont aussi le fond de leur nature, il devrait les façonner. Il n'a pas à neutraliser leur opposition, mais à les convertir en apôtres ardents, en annonciateurs de la même sagesse. Le point de vue le plus haut où l'éloquence puisse se placer, c'est celui du sentiment moral. C'est ce que l'on appelle la vérité affirmative, et elle a la vertu de fortifier l'auditeur. C'est lui donner une suggestion de notre éternité que de lui faire sentir qu'on s'adresse à lui sur un terrain qui restera quand tout le reste aura disparu et où ne se trouve aucune trace de temps, de lieu ou de parti. Tout ce qui est hostile est vaincu en présence de ces sentiments. Le plus endurci éprouve leur majesté. On peut remarquer qu'aussitôt qu'un individu agit pour les masses, le sentiment moral veut et doit entrer en ligne de compte. veut et doit agir. Et les hommes les moins habitués à y recourir y font invariablement appel quand ils s'adressent aux nations. Napoléon lui-même est obligé de l'accepter et de s'en servir comme il le peut. Le pouvoir le plus élevé n'appartient qu'à ces simples mouvements, alors qu'une faible main humaine touche de point en point les poutres et les charpentes sur lesquelles repose tout l'édifice de la nature et de la société. Dans cette mer agitée d'illusions, nous sentons le diamant sous nos pieds. Dans ce royaume du hasard, nous trouvons un principe de permanence, car je n'accepte pas cette définition d'Isocrate, d'après laquelle le rôle de l'éloquence est de rendre ce qui est grand petit et ce qui est petit grand. Mais j'estime que le moment où l'art atteint à sa perfection, c'est celui où, à travers tous les déguisements, l'orateur voit les balances éternelles de la vérité, de sorte qu'il peut résolument présenter aux yeux de l'homme les faits d'aujourd'hui, évalués à leur juste mesure, rendant par là grand ce qui est grand et petit ce qui est petit. Véritable manière d'étonner et de réformer l'humanité. Tous les grands orateurs du monde ont été des hommes graves, s'appuyant sur cette réalité. Les philosophes du temps de Démosthène ont remarqué une pensée qui se retrouve à travers tous ces discours, à savoir que la vertu s'assure son propre succès. S'appuyer sur soi-même, voilà, remarque Hirn, le thème des discours de Démosthène, aussi bien que de ceux de Chatham. Comme tous les autres arts, l'éloquence repose sur les lois les plus exactes et les plus précises. C'est le discours supérieur de l'âme supérieure. On peut la regarder comme le signe de tout ce qu'il y a de grand et d'immortel dans l'esprit. Si elle ne devient pas ainsi un instrument, mais aspire à être quelque chose par elle-même, à briller pour s'exhiber, elle est fausse et sans force. Dans son exercice légitime, c'est une puissance élastique inépuisable. Qui l'a sondée? Qui l'a appréciée? Elle s'élargit avec l'extension de nos intérêts et de nos sentiments, tout en tenant compte de ce qui pouvait aider à son acquisition, tout en ne jugeant aucun labeur trop pénible, s'il pouvait en quelque manière contribuer à son progrès, ressemblant par là au célèbre guerrier arabe qui portait 17 armes à sa ceinture et dans le combat personnel usait de toutes à l'occasion. Les grands maîtres tenaient tous les moyens pour secondaires et ne permettaient jamais à aucun talent, ni à la voix, à l'harmonie ou aux dons poétiques, ni aux anecdotes ou au sarcasme, de se produire pour faire de l'effet. Mais c'étaient des hommes graves qui préféraient leur intégrité à leur talent et estimaient que la cause pour laquelle ils travaillaient, que ce fût la prospérité de leur pays, les lois, une réforme, la liberté de la parole ou de la presse, la littérature ou la morale, étaient au-dessus du monde entier et au-dessus d'eux-mêmes.